Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de rester fidèle au programme de Studio Tamani à travers ses radios partenaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. Le premier vol malien pour le pèlerinage 2024 s'envole ce mercredi 22 mai 2024 pour la Mecque. À la maison, Andy Aguilar est au dernier réglage avec les agences de voyage et les pèlerins. Le Mali a célébré la semaine dernière la Journée internationale de la famille. Elle intervient dans un contexte où plusieurs familles déplacées restent sans nouvelles de leurs proches. Les personnes âgées souffrent beaucoup pendant cette période de canicule accumulée au délestage. Dans cette édition, des spécialistes de la santé donnent des conseils pour alléger leurs souffrances. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes avec Imran Akilomega à la mise en onde Kanyikanti. Comme annoncé dans les titres, les préparatifs pour le Hajj 2024 s'accélèrent pour les pèlerins. Le premier vol décolle ce mercredi 22 mai 2024 à Bamako pour Médine. Selon les responsables des agences de voyage, 90% du quota attribué au Mali par les autorités saoudiennes est déjà atteint. Quant aux pèlerins, ils saluent la qualité de la formation dispensée par la maison du Hajj. Reportage de Omar Waigalo.
Amadou Aroubouankana Maïga est membre de la commission d'organisation du pèlerinage au compte de la filière privée. Selon lui, tout est fin prêt pour le départ du premier vol prévu ce mercredi soir. Monsieur Maïga indique que les sites devant accueillir les pèlerins sont déjà aménagés.
90% des pèlerins maliens ils vont atterrir à Médina. Depuis fort longtemps, nous sommes en train de préparer cette opération Hajj. Donc les logements sont faits, les visas sont faits, les inscriptions continuent. 90% a été déjà réalisé.
À la maison du Hajj de Bamako, les encadreurs intensifient les formations à l'endroit des pèlerins en récitant des versets coraniques. Les pèlerins se disent prêts pour accomplir ces cinquièmes piliers de l'islam. Ils affirment avoir pris les invocations qu'ils doivent faire durant le Hajj.
On nous a enseigné comment faire des doigts, comment s'habiller et comment se comporter une fois sur place.
On a fait des démonstrations sur comment faire le tour de la Kaaba. Je suis prêt à partir.
Ils nous ont appris les sourates et les invocations qu'on doit dire une fois sur place.
Pour la campagne 2024, le coût du Hajj varie entre 4 170 000 à 4 675 000 francs CFA.
8 heures passées de 3 minutes à Boni dans la région de Douanza. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. La ville de Boni, dans le centre du Mali, reste sous blocus des hommes armés face à la dégradation de la situation humanitaire. Les ressortissants de la localité tirent la sonnette d'alarme. L'association pour l'émergence de Boni appelle les autorités à prendre des dispositions pour l'accueil de déplacés. Amadou Ntiko est le chargé de communication et le joint par Maman Babakunta.
La situation actuelle de Boni est hyper catastrophe, on peut dire. Je peux dire maintenant, tout le monde cherche la route pour laisser le village. Hein, parce qu'il n'y a pas de vivre sur place. Ils disent qu'ils ont leur argent en poste, mais il n'y a pas quelque chose à accepter. Quoi. La population de Boni se déplace vers Douanza. Douanza-Boni, ça fait 90 km. Il faut marcher 25 km à pied entre Boni et Nokara et aller à Douanza. Maintenant, les gens qui marchent à pied entre Boni et Nokara, parfois on kidnappe même les gens en cours de route.
En direction Ansongo, 4 blessés sur le bilan d'un accident de circulation survenu dimanche 19 mai 2024 sur l'axe Indeliman-Ansongo. Selon des sources locales, c'est un camion de forêt en partance pour la foire d'Indeliman qui s'était renversé à 35 km d'Ansongo. Les mêmes sources ajoutent que le mauvais état de la route serait à l'origine de l'accident. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais le camion a été complètement endommagé. Les blessés ont été admis au centre de santé d'Ansongo. Selon des sources locales. La Journée internationale de la famille a été célébrée au Mali ce 15 mai 2024. La célébration de cette journée intervient au moment où plusieurs familles déplacées à cause de l'insécurité restent sans nouvelles de leurs proches. À l'occasion de cette journée dédiée à la famille, certains déplacés vivant sur le site de Falaye à Bamako nous livrent leurs témoignages. Reportage d'Ali Sissé et Fantachek Sanogo.
Dado Yassana est mariée et mère de 5 enfants. La jeune dame vit sur le site des déplacés à Faladji avec ses enfants depuis 4 ans. Il n'y a aucune communication entre elle et ses proches restés au village, dit-elle.
Depuis le jour où j'ai quitté là-bas, je n'ai pas échangé un mot avec mon mari. J'entends dire qu'il est en vie quand même. On a quitté le village suivant son instruction à cause de la dégradation de la situation sécuritaire. Il m'a dit de partir avec les enfants et qu'il nous rejoindra plus tard. J'ai 4 autres de mes frères et aussi ma mère qui sont restés.
Wassa Yassana est aussi une femme déplacée qui a tout laissé derrière elle. Elle vit également sur le site des déplacés depuis 6 ans avec son mari et ses 7 enfants. Elle est aussi sans nouvelles de sa famille biologique.
Ils ont brûlé le village et tué d'autres personnes. Quand nous avons vu ça, on a pris la fuite. Mes parents ainsi que mes beaux-parents sont au village et on n'a aucune nouvelle d'eux. Et les gens qui font des allers-retours sont rares. Donc, nous sommes ici dans une attente infernale.
Comme Dado et Wassa, elles sont nombreuses les personnes qui demeurent sans nouvelles de leurs parents au nord et au centre du Mali. Toutes ne souhaitent qu'une chose, le retour de la paix.
La période de chaleur est un moment où les personnes âgées souffrent plus, selon des spécialistes de la santé. Avec une température qui varie entre 40 à 45 degrés, des personnes du troisième âge font tout leur possible pour se protéger contre les risques climatiques, à domicile comme ailleurs. Les coupures d'électricité sont une des causes qui amplifient cette situation, disent-elles. Quels conseils à suivre pour réduire les risques en ce moment? Le détail dans ce reportage de Fatoumata Togola avec Khalifa Goïta.
C'est une période très gênante pour de nombreuses personnes âgées. Conscientes des conséquences de la chaleur excessive, certaines d'entre elles nous parlent de leur manière pour atténuer la situation.
Je suis asthmatique. Je n'arrive pas à dormir. Je fais va-et-vient de la chambre et au dehors. Parfois, j'appelle mes petits-enfants. Venez avec l'éventail là pour que je puisse respirer un peu. La chaleur là, ça tue.
C'est pas facile à gérer, mais on voit toujours de porter les habillements légers. Souvent, on dort dans la cour, on ouvre les fenêtres et les portes pour que la chambre soit aérée.
Docteur Abdoulbaki Diallo, médecin-chef du CSRF dans Sango, nous parle des comportements à appliquer au quotidien, surtout en ce qui concerne les aînés.
Les personnes âgées sont susceptibles à la déshydratation, les infections urinaires, certaines pathologies chroniques comme les cardiopathies, les diabétiques. La première des choses à faire, c'est de ne pas s'exposer au soleil. La deuxième chose, c'est de se réhydrater fréquemment. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Nous, ce qu'on encourage, c'est de les amener d'abord à consommer les aliments liquides, la bouillie, le dégât.
Toutes les personnes âgées rencontrées précisent que la fourniture stable de l'électricité peut alléger leur souffrance.
Sur toute autre actualité, la première édition de la caravane scolaire sur le feu de brousse dans le cercle de Bafoulabé a eu lieu le samedi 18 mai 2024 à Ouelia. Elle est organisée par le journal Vert du Mali et Bioset Mali. Cette initiative a connu un franc succès selon les organisateurs. Son objectif principal était de sensibiliser les élèves aux dangers de feu de brousse, les encourageant ainsi à devenir des défenseurs de l'environnement. En mobilisant la communauté éducative, les organisateurs ont mis en exergue l'importance de la préservation de l'environnement pour les générations futures.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
La rubrique Zoom sur d'aujourd'hui s'intéresse à une catégorie de personnes spéciales. Il s'agit notamment des personnes qui aliment leur vie sur les réseaux sociaux. Autrement dit, celles qui montrent tout ce qu'elles font sur Facebook, WhatsApp et autres réseaux. C'est avec Fatih Yattara et Fatoumata Dambélé.
Par nature, il y a des gens qui se veulent absolument très importants dans la société. Pour atteindre cet objectif, ils optent pour l'exhibition de leur vie. Et les réseaux sociaux favorisent bien ces comportements. Djamila est l'exemple parfait de ces phénomènes. Cette fille transporte toute sa vie sur les réseaux sociaux. Souvent, elle poste des photos d'elle-même au boulot, au marché, à la plage et même au resto. Bref, tout son quotidien. Avec des commentaires comme « Sortie time, la vie est belle, au diable mes ennemis » ou encore « On s'en fout de quelqu'un, hein. Pour nous, il y a Dieu dedans. » La famille Gundo est le prototype de Djamila. Dès que Marama, la mère des familles, se connecte, c'est pour poster des photos des mets vraiment succulents sur les réseaux. Du poulet, de la viande ou du poissons braisés. Accompagné de propos, sécurité alimentaire assurée chez les guindos. À côté de ceci, il y a aussi ceux qui exhibent les images de leur nouveau-né à peine sorti de la maternité ou celles de leur mari avec souvent une exposition des objets des marques ou des liasses des billets des banques. Ceci oublie certainement l'adage qui dit « Pour vivre erré, il faut vivre caché ».
Merci, ainsi se referme cette édition matinale présentée par Mirana Akilou Amaïga. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo 37 321. Femmes et corruption, briser le silence et agir ensemble. Ce thème était au cœur du premier colloque international sur le genre et corruption tenu du 15 au 17 mai 2024 à Bamako. Cette rencontre visait à accroître le pouvoir des femmes et des filles face aux pratiques corruptibles et discriminatoires. L'activité a réuni des experts, des militants des droits de l'homme et des acteurs de la société civile. L'initiative était du projet LUCES, projet de lutte contre la corruption et pour par l'égalité de genre. Il est mis en œuvre par l'ENAP, École nationale d'administration publique du Québec, sur financement des affaires mondiales Canada. Le magazine Gouvernance et citoyenneté est une réalisation de Moussa Malé Sissoko et de Ramatou Haïdara.
Les participants ont prôné la vulgarisation de la stratégie de lutte contre la corruption et l'accélération d'une législation sur la protection des lanceurs d'alerte. Ils ont également recommandé le renforcement des capacités de tous les acteurs sur les outils et dispositifs de lutte contre la pratique. La directrice de l'ENAP, chargée de la mise en œuvre du projet, Mme Ndeye Senaboutop, envisage un plaidoyer auprès des autorités maliennes afin que les recommandations puissent être prises en compte.
À travers les résultats des travaux de groupe qui ont lieu à l'occasion de ce colloque. Je retiens, c'est des acteurs et des actrices déterminés, engagés pour combattre le fléau de la corruption. À partir des recommandations, nous allons faire le suivi. Déjà au niveau du projet, on va mettre à jour nos documents de référence. Donc les recommandations issues de ce colloque vont nous permettre de réorienter nos actions, d'améliorer notre intervention, communication, éducation et surtout plaidoyer.
La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté au Mali a participé à ce colloque. Selon sa secrétaire générale, Mme Aïda Diawara, c'est une nécessité absolue de renforcer la participation des femmes dans les processus de prise de décision pour une bonne gouvernance.
Ces trois jours nous ont vraiment édifiés sur ce que les femmes et les filles subissent du fait des pratiques corruptives. On a fait des recommandations à l'endroit des gouvernants, des PTF, des organisations de la société civile de lutte contre la corruption. On a dit qu'il faut d'abord renforcer la capacité des femmes, leur capacité de résilience pour qu'elles puissent comprendre même qu'elles ont un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption.
Les participants se disent satisfaits des travaux. Ils affirment que c'est un créneau de prise de conscience collective afin de diminuer la corruption à l'égard des femmes et des filles.
Comment dénoncer, qui saisir tout ça là? Nous avons eu à acquérir des connaissances. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans notre combat quotidien.
Nous repartons très satisfaits de cette rencontre. Nous avons beaucoup appris du contexte malien sur les différentes réformes.
Il faut la volonté politique, il faut la rigueur, il faut une application effective des tests.
Ce genre de colloque, les mentalités vont changer également.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, estime que c'est une initiative qui est en adéquation avec la vision de son département, contribuera à renforcer les débats sur la nécessité de réduire les inégalités des femmes et des filles au Mali. Mamoudou Kassougué rappelle l'ampleur du désastre causé par la corruption.
De 2005 à 2019, l'État a perdu 1266 milliards de francs CFA. Ces estimations qui sont révélatrices de l'ampleur du désastre nous interpellent tous. Malgré leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, les femmes sont souvent sous-représentées dans les postes de pouvoir et d'influence, ce qui limite leur capacité à influencer les politiques et les décisions. Les stéréotypes sexistes qui limitent leur capacité à participer pleinement à la vie publique.
L'ambassadeur du Canada au Mali, Nicolas Simard, a de son côté souhaité que ce colloque soit un catalyseur de lutte continue contre la corruption et ses pratiques néfastes au Mali. Rappelons que des experts sont venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Les échanges ont porté sur l'impact de la corruption dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice et les corridors routiers.